comment vous est venue déjà cette passion pour les montgolfières?
Ben, je dirais que c'est dans les années 80, j'avais une bonne dizaine d'années. Il y avait une personne qui organisait des montgolfiades sur Duisans. Il y a les ballons qui posaient derrière dans les champs où j'habitais. Et mon père m'y a emmené. Et puis il m'emmenait également au meeting qui se faisait à Duisans. Il y avait une dizaine de montgolfières à peu près en ce temps-là. Et puis les années ont passé. Enfin, je veux dire, j'en regardais toujours une montgolfière dans le ciel parce qu'on a toujours le regard attiré par une montgolfière dans le ciel. Et on reste toujours, je dirais, un peu hébété de savoir comment ça fonctionne. Et donc voilà, les années ont passé. Un jour, en regardant la télévision, j'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire un vol au-dessus des volcans d'Auvergne. J'étais séduit par l'idée et comme je partais en vacances dans le sud, je me suis dit bonne idée pour aller survoler les volcans d'Auvergne. Et néophyte comme j'étais, ben, je me suis fait surprendre quand je suis arrivé là-bas parce que le vent n'était pas dans le bon sens, donc on n'a pas survolé les volcans, mais on est rentré dans un volcan. Et ça faisait quelques années que j'avais envie de faire quelque chose entre l'ULM, l'avion, la montgolfière, je ne connaissais pas. Et en descendant du ballon après le vol, je me suis dit, c'est ce qu'il faut que je fasse. Et j'avais vraiment trouvé ma voie de ce côté-là. Quand je suis rentré, ben, je me suis inscrit auprès d'un pilote instructeur et j'ai pu passer mon brevet.
Gérard Bayon est pilote de montgolfière. Il officie dans l'Arrajois et propose au public qui désire décoller du sol de survoler la région en toute simplicité. Charles, notre jeune reporter, l'a reçu dans les studios pour un entretien détaillé et aérien.
Globalement, la montgolfière, comment ça marche ?
Alors ça, c'est toujours la bonne question qu'on me pose quand je fais voler des passagers, parce qu'il y a beaucoup de monde qui confond le ballon à gaz et la montgolfière, qui n'a rien à voir. Le ballon à gaz, c'est quelque chose qui fonctionne, je dirais, avec les petits sacs de sable. C'est souvent la photo que vous allez retrouver un petit peu partout avec un ballon et avec un filet et puis un petit sac, enfin des sacs de sable accrochés au ballon. Ça, donc, c'est un ballon à gaz. Et la montgolfière, c'est pas du tout la même chose. La montgolfière, c'est, je dirais, de l'air chaud dans une enveloppe. On chauffe donc l'air chaud et du moment où on chauffe, le ballon, je dirais, s'envole parce que l'air chaud est plus léger que l'air froid. Sinon, après, c'est tout un système qu'il faut apprendre parce qu'il y a la manipulation du gaz, c'est de l'osier, c'est du nylon, mais c'est, je dirais, schématiquement un panier en osier avec des bouteilles de gaz à l'intérieur, avec un brûleur au-dessus de la tête et une enveloppe qui est attachée à tout cet ensemble. Et on met de l'air chaud donc dans l'enveloppe. Au bout d'un moment, le ballon décolle. Et pour atterrir, par contre, on ouvre une soupape qui se trouve en haut du ballon. Voilà en gros comment ça fonctionne.
En montgolfière, vous voulez par quel temps? Quelles sont les bonnes conditions météorologiques?
Les conditions météo sont faites. Quand on est pilote de montgolfière, comme moi qui suis pilote de montgolfière professionnel, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 60% dans un vol, c'est la météo. Il y a 30%, c'est le pilotage, entre guillemets, et il y a 10%, c'est la gestion des passagers. Voilà schématiquement comment on pourrait résoudre un vol. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour voler dans de bonnes conditions, c'est déjà de prendre la météo soi-même. C'est-à-dire qu'il faut sortir, aller voir, s'inspirer si on sent le vol ou pas par rapport à ce qu'on peut voir déjà aux alentours. Ensuite, c'est également de prendre la météo auprès de soit de Météo France. Aujourd'hui, on peut s'appuyer facilement sur différents sites sur Internet. Il y a une météo qui n'est pas trop mauvaise où je m'appuie avec cette météo-là, c'est météo à 5 jours. Ou après, il y a météo ciel qui est également pas trop mal. Mais ce sont que des bases. Donc à partir de là, quand je vois que la météo est propice à un vol, je m'appuie avec Météo France. Parce qu'il est hors de question, aussi bien pour moi que pour mes passagers, de les emmener dans une galère. Donc à partir de là, donc je téléphone à Météo France. Ce sont des gens qui sont très compétents, je dirais, dans le milieu météorologique montgolfière, d'autant plus dans la région, parce qu'il y a quand même quelques montgolfières qui volent dans la région. On leur pose des bonnes questions pour un vol. Donc la première question, c'est de savoir déjà le vent, à quelle vitesse il est au sol et en l'air, la direction, s'il n'y a pas de brouillard annoncé. Ce qu'il faut savoir également, donc, c'est qu'en montgolfière, il y a toujours une inversion qui se crée au lever et au coucher de soleil. C'est pourquoi on vole en montgolfière le matin et le soir. Parce que vous avez des conditions optimum pour pouvoir voler, qu'il n'y a pas dans la journée, parce que dans la journée, on a des thermiques qui se créent. Donc avec ces thermiques-là, vous ne pouvez pas voler. Ou alors, vous avez tout simplement le vent qui va monter avec le lever du soleil. Par contre, juste avant le lever du soleil, eh ben, on a vraiment les conditions, parce que la Terre n'est pas chaude, donc le soleil n'ayant pas réchauffé la Terre, eh ben, vous n'avez pas cette accélération de vent. Donc ça, c'est valable le matin, mais c'est également valable le soir au coucher de soleil. C'est-à-dire que si la Terre a été réchauffée toute la journée, la Terre va se refroidir. Donc, il y a une formation qui se crée, et donc une formation avec une inversion qui se crée. Donc c'est flagrant, ça se sent très bien, je dirais, au coucher de soleil, quand on vole. Par exemple, de 20 km/h, on peut passer largement en dessous des 10 km/h. Donc voilà un petit peu comment on peut s'appuyer en termes de météo. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on peut voler à la vitesse maximum. Donc au décollage, on peut voler, mettre un ballon en place à partir d'un vent maximum jusqu'à 20-25 km/h. Mais ce qui est important pour bien comprendre, c'est qu'il y a des jours, il n'y a pas de vent au sol, mais il y a énormément de rafales. Donc on a l'impression qu'on peut mettre le ballon debout, et là on ne peut pas. Parce que le problème, c'est que les rafales, elles arrivent trop vite. La météo, ça reste, c'est vrai, quelque chose de très important quand vous faites de la montgolfière. Et après, je m'appuie également sur les arbres, sur les nuages, sur ce que je peux voir aux alentours. C'est-à-dire l'environnement proche avant de décoller pour voir. Parce que Météo France, ce sont des personnes derrière des écrans. Certes, ils sont fiables pratiquement à 90%, mais il y a toujours les 10% où c'est au pilote de regarder l'environnement pour pouvoir faire un vol dans de bonnes conditions.
Voler toute l'année, quelles sont les périodes ?
Alors, on peut voler toute l'année dans la mesure où les conditions météo sont bonnes, mais il faut savoir, c'est que dans le nord de Paris, c'est difficile de voler après le mois d'octobre, parce que le problème, c'est de ranger la toile sèche dans le sac. Vous allez comprendre facilement, essayer de ranger un caouet dans son sac et le ressortir humide au bout de 3 ou 4 mois, que le caouet il est tout moisi, et bien là la toile c'est un peu ça, on ne peut pas ranger une toile humide. En sachant que la toile fait 35 mètres de long, elle fait 30 mètres de large, le ballon, dans mon cas, elle fait 8700 m3. Donc la saison, pour te répondre à ta question, c'est du 1er mars au 30 octobre. Alors le 1er mars, par contre, c'est à l'inverse, c'est d'être sûr qu'il n'y ait pas des terrains trop humides, parce qu'il faut pouvoir également aller rechercher le ballon en plein milieu d'un terrain, d'un champ, parce qu'on ne peut pas se poser où on veut. Il faut savoir qu'en montgolfière, on décolle d'un endroit, en l'occurrence pour moi c'est sur la commune de Mareuil principalement et également sur les aérodromes aux alentours, mais on ne se dirige pas, donc on vole vraiment au gré du vent, et quand on décolle on sait dans quel sens on va, mais le vent c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, donc ce qui veut dire que vous pouvez très bien partir plein sud, et quand le soleil va se coucher, il y a une inversion qui se crée. Et à partir de là, au lieu de partir, continuer plein sud, et ben vous tournez sur la gauche ou sur la droite. Et là, vous vous retrouvez, je dirais, par exemple, au-dessus d'une ville ou au-dessus de quelque chose. Alors ça fait partie également du pilotage. Et donc là, il faut rester également prudent.
Quel est le vol le plus ludique que vous ayez réalisé ?
Il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un. J'ai un souvenir énorme avec un copain qui est disparu. J'ai fait des vols de montagne et où on a décollé des carreaux d'arrache, pour ceux qui connaissent, qui se trouve donc juste à côté de Cluses, et on a décollé à 9h le matin. En montagne, vous avez des grands vols et des petits vols. Les grands vols, c'est vous passez les chaînes de montagne, les petits vols, vous grenouillez en bas dans la vallée. Ce jour-là, c'était un grand vol, c'était moi au pilotage. On est parti à 9h du matin, 9h30, on est monté tout de suite à 4000 mètres d'altitude pour prendre le vent qu'il y avait en l'air, 60 km/h de vent, et on s'est dirigé vers la Suisse. Donc on devait se poser côté d'Annecy, dans ce coin-là. Malheureusement, on n'a pas descendu assez vite. Donc, on devait se laisser tomber comme une pierre. Donc, c'est ce qu'on fait en montagne. On devait se laisser tomber comme une pierre à 4-5 mètres seconde. j'ai pas tiré assez vite sur la corde, ce qui fait qu'on s'est retrouvé en Suisse et on a posé le ballon à 2700 mètres d'altitude. Pour anecdote, on a posé le ballon au sommet d'une montagne, puisque je voulais pas aller derrière. Et on s'est donné le truc, c'est de se dire, on va descendre, on va pas se faire élitreuiller par un hélico, on va redescendre à pied. Bon, sauf qu'on sait pas, on n'a pas mesuré, je dirais, entre guillemets, la gravité de la chose pour redescendre. Donc on a commencé à déneiger 60 cm de neige sur un kilomètre. On a commencé, il était 13h, on a fini à 19h30 et on est rentré à la base à 2h30 du matin. Quoi. Donc ça a été vraiment un vol extraordinaire après le vol. Et après, l'autre vol le plus ludique et le plus magique à aujourd'hui, c'est celui de la traversée de la Manche où j'ai mis 2h38. C'est quelque chose que je voulais faire seul parce que ça ne s'était jamais fait en montgolfière seul. Donc j'ai monté le projet tout seul, aidé par la ville d'Arras, aidé par quelques amis pour monter le projet. Mais c'est quelque chose que j'ai voulu faire seul parce que ça s'était jamais fait. J'ai rien trouvé sur Internet. Si, j'irais un Français, un Anglais, qui l'ont fait en 1783 de mémoire, et ou 85, qui s'appellent Geoffrey et Blanchard. Et eux, ils l'ont fait en ballon. Ils y sont arrivés, donc ils n'avaient pas de moyens radio, ils n'avaient rien du tout. Et je me suis dit, il faut que je note ça comme anniversaire, parce qu'on n'en a pas entendu parler autant qu'on a pu entendre parler de Blériot en avion, alors qu'il y avait d'autres personnes qui l'avaient fait avant. Autrement, j'ai voulu marquer un petit peu cette date anniversaire-là. Bon, malheureusement, en montgolfière, on ne peut pas faire ce qu'on veut par rapport aux conditions météo, surtout que là, il fallait que ce soit dans le sens Angleterre-France. Après, que ce soit France-Angleterre, c'est un peu plus dur, mais quelles que soient les conditions, enfin, dans un sens ou dans un autre, je voulais marquer cet événement-là et cet anniversaire-là, sauf que l'anniversaire que j'ai souhaité marqué, la météo n'était pas là ce jour-là, donc j'ai dû patienter pendant 9 mois. J'ai patienté, et en patientant, l'année dernière, le jour J est arrivé, et il est arrivé le 9 décembre, alors que tous les Parisiens avaient les pieds dans la neige. Ici, il avait tombé du verglas, jamais on aurait pensé, tout au moins pour les autres personnes, moi j'y croyais, parce que je m'étais appuyé de Météo France, et de ma météo. Donc je suis parti le jeudi 9 décembre à 6h du matin pour partir d'Angleterre. Donc j'ai traversé le Kent, parti de la commune d'Ham Street en Angleterre, pour traverser la Manche. Donc j'ai traversé 55 km d'eau pour poser à Samé, enfin juste à côté, un village qui s'appelle Lacre. Donc après 2h38, le souvenir, enfin le plus grandiose, je dirais, c'est d'avoir survolé la Manche 2 mètres au-dessus de l'eau, quoi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pratiquement qu'en montgolfière, quoi.
Quelles sont les précautions à prendre lors d'un vol en montgolfière ?
Les dangers, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que par rapport à le premier des dangers, bien sûr, c'est comme tout, il y en a, mais je dirais le danger en montgolfière, il est quand même moindre, dans le sens où on prend, je dirais, un maximum de précautions. Et comme j'expliquais tout à l'heure, la météo, c'est 60% par rapport à la préparation d'un vol. Quand vous faites un vol en montgolfière, moi, en tant que pilote, je me remets toujours en question. Vous ne pouvez pas dire, je vais prendre le ballon et voilà, tout est contrôlé 2 fois, voire 3 fois avant de partir. Parce qu'une fois que vous êtes en l'air, bon, certes, vous pouvez poser, on est en ballon, quand il n'y a pas de vent, on peut poser le ballon tout de suite. Mais si jamais il y a du vent et qu'on ne peut pas poser le ballon et qu'il se passe quelque chose, il faudra attendre d'avoir un terrain propice pour pouvoir poser. Le risque zéro n'existe pas, mais on prend des précautions maximum déjà pour voler. Donc la première chose, c'est la météo. La seconde chose, les dangers, oui, ce qu'on peut rencontrer comme danger, parce que la météo n'est pas une science infuse, il peut se passer des choses, c'est clair, le vent monte, le brouillard arrive, c'est des choses qu'on ne peut pas spécialement prévoir, mais c'est à nous de gérer en tant que pilote pour poser avant le danger. En tant que pilote, notre plus grand ennemi, ce sont les lignes électriques. Parce que autant qu'on peut voir les pylônes sur, je dirais, une longueur, 3, 4, 5, 10 km, sur les grosses lignes, où vous allez voir les piquets à perte de vue, mais vous ne voyez pas les fils. Donc ça, c'est le plus grand danger. Et ça ne prévient pas parce que vous pouvez vous retourner et puis dire « Ah ben tiens, on est là, on est dans une ligne ». Enfin, où on n'est pas dedans, mais je veux dire, on est à côté. Ça peut être un des plus grands dangers. Et on a également des procédures de sécurité au cas où et des positions à se mettre pour être à l'intérieur de la nacelle, au cas où on devrait poser rapidement. Autant qu'il m'est arrivé des galères de poser en haut de la montagne, ou alors, je dirais, dans le plus beau vol, le vol le plus ludique, celui de la traversée de la Manche, c'est quelque chose qui se prépare. Chaque vol est préparé, il y a un plan de vol qui est fait. Par exemple, la traversée de la Manche, j'ai volé à 30 km/h, enfin plus de 30 km/h, au-dessus de la Manche, à 300 mètres. Quand je suis arrivé dans les terres, côté français, j'avais toujours 30 km/h et j'ai posé mon ballon debout. Parce que je savais dans ma tête comment j'allais faire. Il faut avoir énormément de patience quand on fait de la montgolfière. Ma patience, entre guillemets, a payé. Dans la mesure où vous avez de la patience en montgolfière, le danger est pratiquement de zéro. Quoi. Je veux dire, bien sûr, après, le danger, c'est le gaz qui est à l'intérieur de la nacelle. Aujourd'hui, tous les systèmes de sécurité qui sont mis dans les ballons sont, je dirais, avec des vannes qui ont trois clapets, enfin trois sécurités en termes de joints. Les ballons sont révisés tous les ans, donc la toile est contrôlée, il y a des tests, des déchirures qui sont faits. Tout le matériel est contrôlé par un atelier qui est agréé. Bon, après, c'est également au pilote de surveiller son matériel, de voir s'il n'y a rien de défaillant. Dans tous les cas, de toute façon, si je m'apercevais avant de partir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on laisse le ballon par terre et on annule le vol. Ça m'est déjà arrivé, mais bon, par exemple, le vent est monté plus vite que ce que la météo m'avait dit. On n'a pas arrivé à gonfler la toile, c'est tout. On repose la toile, on range. Il faut savoir rester humble en faisant de la montgolfière. Comme on dit dans notre jargon, enfin tous les pilotes vous le diront, vaut mieux avoir le regret d'être au sol que d'être en l'air.
Quels sont les tarifs que vous proposez pour un vol en montgolfière ?
Alors les tarifs proposés pour un vol en montgolfière, hors promo, je dirais, ça avoisine les 190 €. Après, on a des tarifs qui sont promotionnels, mais en général, ça avoisine plus, je dirais, aller dans les tarifs avec nos promos qu'on fait entre 150 et 170 €. C'est ce qu'il faut compter. Il n'y a pas que le vol, parce que bon, c'est clair que s'il n'y avait que le vol par lui-même, bien sûr, il y a le vol qui est tout un tas de choses. Mais quand vous venez faire de la montgolfière, vous participez, j'irai tout le monde ensemble à la préparation du ballon où il y a un briefing, vous avez également le vol et au retour il y a j'irai le pot de l'amitié, le débriefing de ce que vous avez pu voir, des photos que vous pouvez échanger et des différentes choses que vous avez pu voir. Donc l'avantage, je dirais, dans la région, puisque je vole principalement, je dirais, sur Mareuil et enfin Arras, on va dire, mais Arras, Saint-Quentin, Valenciennes, Saint-Omer, Amiens et puis également Neuchâtel-en-Bray, c'est que par ici, on a vraiment quelque chose de formidable, c'est que c'est très riche d'un point de vue, je dirais, culturel, puisqu'on a Lorette, on a Vimy, on a les crêtes de l'Artois, on a tout le bassin minier, on a Arras qui est très riche, je dirais, en architecture, on a les places d'Arras qui sont magnifiques. Donc tout ça, c'est des choses que j'explique en vol. Et on a aussi quelque chose qui est pas connu dans la région, ce sont des menhirs. Il y a des menhirs et c'est quelque chose que j'explique en volant. Donc quand je fais un vol, j'explique aux personnes où est-ce qu'ils se situent, comment ils se situent. Et on a aussi quelque chose de formidable, c'est les tours de Mont-Saint-Éloi. Donc j'ai toujours des questions, que ce soit sur le ballon. Donc ça comprend la partie vol, à l'atterrissage il y a le rangement du ballon, il y a le retour, j'irai au point de départ où là il y a le pot de l'amitié et la remise de diplôme. Donc c'est pas, je dirais, par rapport au tarif, ce n'est pas qu'un vol d'une heure où vous volez une heure, on se pose et puis on rentre. Il y a toute la pédagogie qui est derrière. Et... Toi Charles, tu es déjà monté en montgolfière, qu'en penses-tu ?
Moi, la montgolfière, je suis passionnée. Ça fait 4 ans maintenant que je suis montée dans une montgolfière. C'est vraiment magique. On voit plein de choses, comme vous avez dit, que ce soit le bassin minier, les tours de Mont-Saint-Éloi, Arras, tout ça, c'est vraiment magnifique à voir. Je me souviens comme si c'était hier de mon premier vol. Et en ce qui concerne le vol, j'avais toute petite appréhension parce que moi, j'ai le vertige. Ça, c'est ce qu'on se dit souvent, enfin je pense, j'entends souvent dire on a peur en montgolfière parce qu'on a le vertige. Il faut vraiment supprimer cette idée de la tête parce que en montgolfière, on ne peut pas avoir le vertige. C'est juste une impression de vide, c'est une petite peur du vide, mais ça fait, enfin, c'est vraiment très rare. Enfin, moi, je n'ai pas ressenti ça du tout. Après, la pression de hauteur et de calme, ça m'a plu. Et voilà, c'est juste magique.
Enfin, oui, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, on peut pas avoir le vertige parce qu'on est sur le même axe. Donc, voilà. Pour les personnes qui ont peur parce qu'ils montent en haut d'une échelle, sur une chaise, sur une table et qui se disent on va tomber, non, vous aurez jamais le vertige quand vous ferez de la montgolfière, dans le sens où vous êtes vraiment sur le même axe. Alors, le fait d'être sur le même support, vous avez toute cette sensation de vertige qui disparaît. Si vous êtes malade ou si vous n'êtes pas bien, ce n'est plus, je dirais, un vertige, ça devient le mal de l'air. Et sur le nombre de personnes que j'ai transportées, je dirais, en ballon, que ce soit des passagers, ça m'est arrivé une fois d'avoir une dame qui ne soit pas bien. Bon, bah là, tu me parlais de sécurité tout à l'heure. On l'a tout simplement, il y a des consignes. Donc, la dame s'est assise dans le fond de la nacelle. Et puis, on a attendu de redescendre. Et quand on est redescendu à une dizaine de mètres au-dessus du sol, enfin, juste avant de poser, elle s'est relevée. Et puis voilà, quoi. Mais ça s'est super bien passé. Mais c'est sûr que si vous partez avec le trac de faire un vol, on est là également pour vous rassurer, on est là pour vous amener, je dirais, en pleine confiance. Et ça m'est arrivé cette année où il y a une fille d'une vingtaine d'années qui a fait demi-tour, qui est repartie avec son ami et elle a fait demi-tour. Je l'ai rappelé, je lui ai dit non, vous allez venir, et je l'ai rassurée en l'emmenant dans la toile, en lui parlant, et elle a fait le vol et elle m'a dit génial, quoi. Donc voilà.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de la société Magic Balloon, www.magicballoon.fr, Magic Balloon 2L2ONS. Vous pouvez vous renseigner au 06 10 325 613. Voilà, 06 10 325 613, pour peut-être un jour vous envoler au 7e ciel.
Sachez que vous aussi, jeunes auditrices et auditeurs, si vous voulez passer derrière le micro tout comme Charles, eh bien vous pouvez rejoindre l'atelier radio du samedi. BFM vous propose un atelier radio ludique pour vous permettre de découvrir le monde étrange et mystérieux de la radio. Chronique à thème, micro-trottoir, reportage et interview, mais aussi montage et habillage sonore, trucage, magie, trichage, etc. Alors rendez-vous dans les studios de Radio PFM, 61 Grand Place, 62 000 à Arras, tous les samedis de 15h à 16h30. C'est ouvert aux enfants, ados et jeunes adultes de 11 à 18 ans. Et pour tout renseignement, contactez Boris au 03 21 50 99 99.